Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Les Voix de service quotidien. Hélène Denis qui vous accompagne en ce 13 novembre 2017. Bonjour Maurice Bolduc.
Oui, bonjour.
Alors, vous allez passer du temps avec nous aujourd'hui et demain, en remplacement de Jean-Sébastien Laliberté, qui a pris un petit congé bien mérité.
Sûrement mérité, oui.
Vous aussi, vous avez travaillé en fin de semaine, mais c'est toujours un plaisir de vous accueillir.
Toujours un plaisir aussi pour moi.
Alors, on vous écoute dans les éphémérides.
Oui, on commence c'est une journée mondiale aujourd'hui, en tout cas particulière. C'est la journée mondiale de la vasectomie.
Ah oui?
La vasectomie qui est peu courante, il paraît, dans de nombreux pays, mais là, j'ai noté ça, notamment en France, où la technique en France est encore considérée comme une mutilation. Ça, c'est effrayant, là. Mais bon, un brin macho.
Tandis Commentaire de Maurice. La journée de la vasectomie, je n'avais jamais entendu ça.
Qui a été créée en 2013 aux États-Unis.
Ah!
Donc, c'est quand même assez récent.
Oui.
C'est connu sous le nom de World Vasectomy Day, la journée de la vasectomie.
Uh-huh.
Donc, et voilà, bonne chance à tout le monde. quelques événements, donc, en ce 13 novembre, en 2015, des attaques menées par des djihadistes du groupe État armé islamique frappent la capitale française, Paris. On se souvient ça a fait 130 morts, on se souvient des terrasses, on se souvient aussi du Bataclan, donc, triste souvenir. En 2010, la junte birmane relâche la lauréate du prix Nobel de la paix, Mme Aung San Suu Kyi, privée de liberté pendant 15 des 21 dernières années. Donc, entre-temps, elle est arrivée au gouvernement, c'est la ministre des Affaires étrangères là-bas. En 2003, Paul Martin est élu comme chef du Parti libéral du Canada pour remplacer M. Jean Chrétien. En 1997, refaite à neuf et à l'identique à Paris, l'Olympia réouvre ses portes. En 1994, avec 52,2% des voix, la Suède se joint à l'Union européenne. En 1956, belle date si intéressante, la ségrégation raciale dans le transport des écoliers est déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis. En 1945, Charles de Gaulle, après la guerre, est désigné chef du gouvernement français par la majorité des députés, les 555 députés. En 1940, à New York, c'est la première du dessin animé Fantasia. Ça nous a tous marqué notre enfance, ou presque.
La vôtre, en tout cas.
Oui, beaucoup de monde, il me semble.
Ouais.
C'est un classique.
Moi, c'est plus Blanche-Neige.
Ah, on reste dans le dessin animé quand même.
Oui. Oh, ouais.
Et en 1936, le roi Édouard VII, régnant depuis seulement janvier, prévient le premier ministre de l'époque qu'il épousera son américaine Wallis Simpson, qui est déjà divorcée deux fois, mais le Parlement anglais ne le prendra pas. Donc Édouard VIII, va abdiquer puis va laisser le trône à son frère George VI. En 1913, Marie Phelps Jacob obtient un brevet aux États-Unis pour son invention, le soutien-gorge élastique. Je connais pas, mais bon, c'est peut-être un avantage pour vous, je sais pas. En 1849, des émeutes ravagent Montréal, qui était la capitale à l'époque. La capitale est déplacée à Toronto et le choix d'Ottawa sera décidé en 1858. Et plus ça change, plus c'est pareil, je vais finir avec ça. Ça remonte à 1789, dans une lettre à un ami, Benjamin Franklin écrit « Il n'y a en ce monde rien de certain, sauf la mort et les taxes. »
Eh oui.
Puis ça change, puis c'est pareil.
Ça, c'est vous qui avez rajouté
oui,
ça.
Oui, je le rajoute. 200 ans plus tard.
Aïe.
Deux, trois naissances. Le poète, journaliste et député Gérald Godin naît en 1938. Il nous a quitté en 1994. L'actrice américaine Whoopi Goldberg naît en 1955.
Ah.
Donc, ça lui donne...
62?
Ouais. Et André Lachapelle, grande actrice québécoise, naît en 1931.
Incroyable.
Ouais.
86
okay.
ans.
Oui, calcul mental, je ne suis pas bon.
Quelle année vous avez dit
1931?
Bon, on est en 2017, oui.
Ouais.
86
Donc,
ans.
Donc, chapeau, Madame Lachapelle.
Oui.
Et j'ai deux, trois décès. En 2015, l'écrivain journaliste québécois Georges Hébert-Germain nous quittait. Ça fait déjà deux ans. Mais en 1994, Patrick Esposito di Napoli, musicien d'origine française, c'était l'harmoniciste des colocs qui décédait donc cette journée de 1994. En 1991, le cardinal canadien Paul-Émile Léger nous quittait, et en 1866, c'était le compositeur Gioachino Rossini qui nous quittait lui aussi. Et voilà, ça fait le tour les éphémérides dans ce 13 novembre.
Merci, Maurice. Mourir dans un Airbnb. Êtes-vous certain que l'appartement que vous avez loué sur le web est sûr? Retour sur 4 cas troublants. Affaire gaz à effet de serre, êtes-vous prêt à passer à l'action? Un dossier de Francis Vaille. Morte de froid, c'est juste une femme autochtone, le cauchemar d'un fils éploré. Violence et isthme, l'Iran et l'Irak comptent leurs morts. Pause famille, aide maman et papa, entre parenthèses, à la rescousse. Le phénomène des accompagnantes post-natales prend de l'ampleur. Ce lundi matin, soutien à domicile, un peu de répit, s'il vous plaît. C'est une collaboration spéciale signée Nadiel Couteloup. Manger, prendre ma douche et dormir. Voilà les principales réponses de parents de nouveau-nés lorsque les accompagnantes postnatales leur demandent « De quoi avez-vous besoin? » Pour leur offrir un peu de répit, des organismes publics et privés offrent du soutien à domicile pour leur permettre de souffler durant l'éprouvante période qui suit l'accouchement. Très apprécié des familles, le service d'accompagnante postnatale à domicile, aussi appelé accompagnante au relevail, est encore peu connu. En ce moment, on parle beaucoup des accompagnantes à la naissance. Les femmes se préparent énormément pour le jour de l'accouchement, mais pas pour l'après. Et c'est l'après qui est plus difficile, parce que c'est long, lance Sylvia Hodvoss, mère de 3 jeunes enfants, accompagnante certifiée à la naissance et postnatale. Elle a fondé Rock the Cradle, une entreprise montréalaise qui offre des cours prénataux ainsi qu'un accompagnement à la naissance et postnatale. Que fait l'accompagnante postnatale? Durant un bloc de 3 heures, l'accompagnante s'occupe du bébé pour que la mère puisse manger, dormir ou encore prendre une douche. Elle peut l'aider lors du bain du bébé, donner des conseils sur l'allaitement ou le sommeil et répondre à ses inquiétudes. Les nouvelles mamans sont très anxieuses et se préoccupent de tout. Elles se demandent si le bébé boit assez, pourquoi il ne dort pas bien, ont peur de l'échapper, d'être une mauvaise mère. On a beaucoup d'anxiété comme société, déplore Sylvia Hodvoss. L'accompagnante veille aussi à ce que les mères s'alimentent bien. On peut préparer des plats simples selon ce qu'il y a dans le frigo, couper des légumes, plier les vêtements, nettoyer un peu. Et on s'assure que la maman ne tombe pas en déprime, dit Sylvia Hodvoss. Face à une demande croissante, la chef d'entreprise gère maintenant une équipe de 3 accompagnantes. Les familles ont généralement recours à ce service jusqu'à ce que le bébé ait 8 mois, voire 1 an. Ça nous a vraiment aidés. Ça a permis à mon mari et à moi de nous reposer pendant que l'accompagnante s'occupait du bébé ou nous préparait un repas, raconte Julie Kwan, qui a bénéficié des services d'une accompagnante après la naissance de son enfant. Elle vérifiait aussi nos aptitudes comme l'emmaillotage, l'allaitement ou le ro. Autre aspect qu'elle a apprécié, l'accompagnante est une personne neutre qui ne juge pas les parents. En tant que nouveaux parents, nous aimions recevoir une opinion de quelqu'un qui n'était pas de la famille, souligne-t-elle. C'est un service qui peut convenir à toute personne qui doute de ses capacités parentales et qui aimerait recevoir de l'aide de l'extérieur de la famille. Ex-directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et ancienne gestionnaire à l'Université McGill, Sylvia Hodvoss constate que les nouvelles mères sont très isolées. 6 semaines après la naissance, on veut éviter qu'elles restent toujours chez elles, dit-elle. L'accompagnante s'assure donc que les mères sortent, même si c'est pour une petite marche. Elle les encourage, par exemple, à suivre des cours de yoga avec bébé, surtout l'hiver, et de se joindre à des groupes de mamans afin de côtoyer d'autres mères. Ça permet de voir que notre bébé n'est pas le seul à ne pas dormir, à avoir du reflux ou à beaucoup pleurer. Qui a recours aux accompagnantes postnatales? Des parents de jumeaux ou de triplés. Ceux qui ont déjà un enfant, des parents qui n'ont pas de famille à proximité, des mères de famille monoparentales, des femmes qui ont eu une césarienne, ou encore des mères dont le conjoint vient de retourner au travail et qui angoissent à l'idée de se retrouver seule. Chez Rock the Cradle, le tarif est de $40 l'heure pour un minimum de 3 heures ou de $400 pour un forfait de 12 heures. Cette année, pour répondre à la demande, Rock the Cradle offre un service de nuit de 22h à 6h, ce qui permet aux parents de dormir une nuit complète. Comme les accompagnantes de Rock the Cradle sont des naturopathes, des naturothérapeutes, dis-je bien, les frais peuvent être remboursés par certaines compagnies d'assurance. Plusieurs organismes communautaires offrent également gratuitement le service d'accompagnante postnatale. Qu'est-ce que les relevailles? Avant les années 50, les nouvelles mères gardaient le lit pendant les 9 jours suivant l'accouchement. Elles étaient donc aidées de membres de la famille pour les tâches ménagères. La tradition s'est perdue quand les femmes ont commencé à accoucher à l'hôpital. Couche-Tard accusé de profiter des avantages de paradis fiscaux. Le fleuron québécois Couche-Tard a eu recours à un compte dans des paradis fiscaux pour faire transiter des revenus selon ce qu'ont révélé des documents liés aux Paradise Papers. Selon Radio-Canada, l'entreprise québécoise a ouvert sa première société dans un paradis fiscal en 2010 au Luxembourg. Toutefois, compte tenu des resserrements des règles fiscales survenues dans le duché quelque temps plus tard à la suite des LuxLeaks, Couche-Tard a voulu mettre fin aux activités de cette société. En 2015, une gestionnaire de Couche-Tard a demandé les services d'Appleby, cabinet d'avocats spécialisé dans les paradis fiscaux, pour l'ouverture d'un compte sur l'île de Man, où le taux d'imposition des entreprises qui n'y ont pas d'activité est de 0 %. C'est une autre firme qui a finalement ouvert la filiale de Couche-Tard sur l'île de Man, moins de 2 semaines après le début des démarches de la gestionnaire. Cette filiale sera nommée Circle K-I-O-M. Couche-Tard a indiqué que l'ouverture de la filiale sur l'île de Man s'était avérée nécessaire lors de l'acquisition du réseau de dépanneurs irlandais Topaz. On a acheté Topaz en Irlande en 2015, qui avait une société basée à l'île de Man. On a dû en ouvrir une pour le transfert des actions. Couche-Tard a ensuite utilisé cette société pour faire circuler les revenus, a affirmé le fondateur et président de Couche-Tard, Alain Bouchard, à Radio-Canada. Si M. Bouchard a reconnu que les filiales de son entreprise au Luxembourg avaient permis de payer moins d'impôts en Europe, il a cependant indiqué que le stratagème n'avait pas permis à Couche-Tard de diminuer sa charge fiscale au Canada. Alerte au smog pour plusieurs régions du Québec. Environnement Canada a émis lundi une alerte au smog qui concerne plusieurs régions du Québec, la plupart étant situées le long de la vallée du Saint-Laurent. Il s'agit des régions de Vaudreuil-Soulanges, de Montréal, de la vallée du Richelieu, de Saint-Hyacinthe, de la Chute et de Saint-Jérôme, de la Naudière, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce et de Montmagny-Lillet. Environnement Canada signale que la qualité de l'air était acceptable en début de journée dans ces régions, mais qu'elle s'appauvrira plus tard lundi dans certaines d'entre elles, notamment à Montréal et dans les environs. Le smog est une brume jaunâtre composée de polluants atmosphériques qui peut avoir plusieurs effets néfastes sur la santé. Elle peut causer des difficultés respiratoires, de la toux et des irritations aux yeux. Le smog peut causer une aggravation des symptômes chez les personnes atteintes de maladies cardio-respiratoires comme l'asthme, la bronchite ou l'emphysème. La population des régions concernées peut mettre en vigueur certaines mesures simples qui aideront à réduire le smog, éviter d'utiliser des appareils de chauffage au bois, privilégier le transport collectif et le covoiturage et ne pas laisser tourner inutilement le moteur de l'automobile. Des fleurs, des bougies et un silence brisé par un mini-concert des Eagles of Death Metal. La France a sobrement commémoré lundi les attentats du 13 novembre 2015, les pires de son histoire avec 130 morts et plus de 350 blessés. Lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbes, minutes de silence, échange avec les familles de victimes. Le président français Emmanuel Macron a respecté le même cérémonial depuis tôt lundi matin, sur chacun des lieux attaqués, des terrasses vides, des cafés, restaurants parisiens au Stade de France dans la banlieue, et enfin la salle de concert du Bataclan, où jouait ce soir-là le groupe de rock californien Eagles of Death Metal. « I love you, je t'aime », a lancé très ému le chanteur Jesse Hughes dans un concert surprise de seulement deux titres. « Save a Prayer », le dernier morceau entier qu'ils avaient joué il y a deux ans, avant que l'attaque en plein concert ne fasse 90 morts, puis « I love you all the time ». Visiblement très ému, Jesse Hughes a ensuite distribué des roses blanches aux proches de victimes devant la mairie du 11e arrondissement, où ce concert a été improvisé après le rassemblement organisé par l'association Life of Paris, a constaté un journaliste. C'est difficile de ne pas se souvenir de ces gens qui nous ont été enlevés, mais on a vu ce soir-là la plus belle démonstration d'amour qui puisse être donnée.
Voilà. Que l'amour à offrir en prière pour le mot de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour j'ai malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour offrir à ceux-là dont unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour.
D'entendre une belle pièce de Jacques Brel, Quand on a que l'amour, interprétée par Camélia Jordana, Yael Naïm et Noël Leroy. Je crois que c'est une pièce qui a été chantée, c'est en hommage aux gens qui sont décédés justement à cette triste journée.
Oui, du 13 novembre 2015. La une du Devoir, dans la rue contre le racisme. Des milliers de manifestants ont marché dans les rues de Montréal dimanche après-midi pour dénoncer le racisme, l'extrême droite et la loi québécoise sur la neutralité religieuse. La marche s'est terminée à la place du Canada où la statue de John A. Macdonald avait été vandalisée durant la nuit précédente. Alors on voit la statue qui est couverte de peinture rouge. Cannabis au volant, la tolérance zéro serait impossible. Un test routier ne permettra pas de prouver une intoxication, préviennent les experts. Maltraitance infantile, l'affaire Sirard a entraîné une baisse des signalements. Documentaire sur les traces d'un père fantôme, Kalina Bertin a nagé toute sa vie en eau trouble. Son père, qui a donné un faux nom sur son acte de naissance, a été assassiné en Thaïlande en 2006 par sa maîtresse de longue date, après avoir passé sa vie à escroquer des gens. Son frère et sa sœur souffrent de troubles bipolaires. Ce sont ces morceaux de sa vie que la jeune cinéaste de 28 ans tente d'assembler dans son documentaire « Manic », présenté mercredi aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RIDM. C'est une entrevue de Caroline Montpetit. Des droits de la personne en Asie, des ONG ont Justin Trudeau à l'œil. Passage de témoins en Chine, une chronique de François Brousseau. Et que doit-on espérer pour la mobilité de demain? Rémunération des stagiaires, grève étudiante au visage féminin. Cannabis au volant, la tolérance zéro serait impossible. Texte de Marie Vastel. Québec a beau vouloir promettre une tolérance zéro pour le cannabis au volant, les experts préviennent que ce serait impossible. Car la marijuana a ceci de particulier qu'elle reste longtemps dans l'organisme sans pour autant avoir un effet psychotrope. Résultat, une fois légalisée, la marijuana sera présente dans l'organisme de tous ses consommateurs réguliers, qu'ils soient intoxiqués ou non. Quant aux usagers occasionnels, ils seront difficiles à attraper car les tests de détection par la salive ne sont pas fiables selon la science. La forte médiatisation en 2013 de plaintes faites par des parents furieux d'avoir vu leurs enfants soumis à des tests et d'avoir été eux-mêmes soupçonnés de maltraitance par des médecins du centre hospitalier universitaire CHU Sainte-Justine a entraîné une chute du nombre d'enfants signalés pour de mauvais traitements dans l'ensemble de la région métropolitaine selon des chiffres obtenus par Le Devoir. Des données compilées par le Centre jeunesse de Montréal et le Centre jeunesse Batsha depuis les 5 dernières années, montrent que les signalements faits spécifiquement par du personnel médical ou des employés d'un hôpital dans la région de Montréal ont chuté en 2014-2015 et en 2015-2016. Cette baisse a été ressentie au cours des deux années qui ont suivi la couverture médiatique des plaintes émanant de parents, s'estimant accusés à tort de maltraitance par des spécialistes du CHU Sainte-Justine, notamment par le docteur Alain Sirard. Ce spécialiste de la détection de la maltraitance infantile s'était retrouvé sous la loupe des médias, alors que des reportages relataient le cauchemar vécu par des parents que le docteur Sirard croyait coupables de maltraitance envers leur enfant en raison de la présence de fractures inexpliquées. Là où l'effet a été le plus marqué, c'est à la clinique socio-juridique du CHU Sainte-Justine, spécialisée dans l'évaluation des enfants victimes de sévices physiques ou sexuels frappés de plein fouet par les cas portés à l'attention des médias dès 2013. La confiance principalement des parents et même des DPJ envers les services médicaux a été durement ébranlée. Extrait du rapport annuel 2013-2014 de la clinique socio-juridique du CHU Sainte-Justine. Il y a bientôt un an, le docteur Alain Sirard, visé par des reportages et des enquêtes, s'enlevait la vie au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine au lendemain de la sortie du rapport du coroner sur les causes de son décès. Sa conjointe et un de ses fils profondément meurtris s'expriment publiquement pour la première fois. « Alain, pour moi, ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre. Il a été assassiné, ce gars-là, par la méchanceté des gens », clame Marie-Claude Miron, la conjointe du docteur Alain Sirard. Le pédiatre s'est enlevé la vie sur son lieu de travail le 6 décembre 2016. Ce qu'il méritait, c'est une médaille. À la place, il a été traîné dans la boue, déplore Olivier, son fils, C'était une sommité. Les dossiers complexes et difficiles lui étaient toujours refilés. Le rapport d'enquête sur le suicide du docteur Alain Sirard, survenu en décembre 2016 au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, révèle que le médecin aurait sombré dans un état dépressif à la suite des reportages, enquêtes et sanctions qui ont suivi les plaintes déposées contre lui par des parents s'estimant accusés à tort d'avoir maltraité leurs enfants. Un appareil Q400 de Bombardier a dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Belfast vendredi car le train avant refusait de se déployer. L'avion de la compagnie Flybe, qui transportait 53 passagers de Belfast vers Inverness, a dû larguer du carburant pendant 2 heures avant d'amorcer l'approche. Selon l'Association des pilotes du Royaume-Uni, ce genre d'atterrissage est une manœuvre très difficile, mais les pilotes toujours prêts pour ce type de travail ont fait un travail exceptionnel dans les circonstances. Le modèle Q400, un avion dédié aux courtes distances qui peut transporter jusqu'à 86 passagers, est assemblé dans la région de Toronto. Vendredi, journée mondiale des stagiaires, ils étaient 15 000 étudiants à travers la province à être en grève pour demander une rémunération pour tous les stages menés par les étudiants en enseignement, en travail social ou encore en soins infirmiers. Ce nouveau soulèvement critique une répartition jugée inégale des ressources dans les différents domaines d'enseignement. Vous écoutez Les Voix de service quotidien, c'est Hélène Denis qui vous accompagne. À venir, après la pause et la chanson, la revue de presse du Journal de Montréal.
Baisse pas les bras, ouvre-toi.
vient d'entendre Catherine Ringer qui nous chantait « Como va ».
À la une du Journal de Montréal, plusieurs photos de jeunes après 4 années de baisse, plus de jeunes tués sur les routes. 4 milliards de dollars dorment dans des cartes de récompense. Avec l'Autorité des marchés financiers, la vérificatrice rattrapée par des contrats. Hausse des jeunes tués sur les routes. Pour la première fois depuis 2012, le nombre de jeunes qui perdront la vie sur les routes du Québec sera à la hausse cette année. Un peu moins de 2 mois avant la fin de l'année, on déplore déjà au moins pour 2017 la mort de 44 jeunes de 15 à 24 ans dans une collision routière, selon des chiffres obtenus par le journal. C'est déjà 5 victimes de plus qu'en 2016 dans cette tranche d'âge. Ce sont des chiffres vraiment effrayants, constate le porte-parole du Conseil canadien de la sécurité, Lois Smith. Il s'agit de statistiques qu'on aimerait plutôt voir diminuer. On espère que cette année soit une exception et qu'on n'assiste pas au début d'un nouveau cycle, dit-il. Selon M. Smith, l'arrivée prochaine des conditions routières hivernales n'aidera sans doute en rien ce lourd bilan. Les conducteurs ont pris de mauvaises habitudes durant l'été qui sont problématiques une fois l'hiver arrivé. On remarque que plusieurs tardent à freiner ou suivent de trop près les autres sur la route. Avec de la neige et de la glace, ça peut être impardonnable, précise M. Smith. La meilleure façon d'améliorer le bilan routier chez les jeunes reste la sensibilisation, insistent des experts. C'est un groupe de la population qui est vulnérable. Il y a visiblement un manque de compréhension des notions de sécurité, croit M. Smith. Doit-on limiter le nombre de passagers dans une voiture? Réduire le nombre de passagers dans un véhicule conduit par un jeune conducteur pourrait aider à améliorer le bilan routier, croient des experts qui citent l'Ontario en exemple. La présence d'autres jeunes dans l'habitacle peut inciter le conducteur à rouler vite, mais peut aussi constituer une distraction, insiste Lois Smith du Conseil canadien de la sécurité. Au même titre que le cellulaire au volant, la présence d'autres personnes dans la voiture peut empêcher le conducteur de se concentrer sur la route, dit-il. Comme on dit souvent, plus on est de fous, plus on s'amuse, souligne le coroner Yvon Garneau, qui a déjà évoqué l'idée de limiter le nombre de passagers à bord d'un véhicule conduit par un jeune conducteur. Dans un rapport controversé, il avait aussi recommandé l'imposition d'un couvre-feu aux jeunes conducteurs de 16 à 24 ans. Dans ses recommandations, le coroner rappelait qu'en Ontario, l'on interdit aux conducteurs moins expérimentés de conduire entre minuit et 5 heures du matin. Les chiffres démontrent que cette limitation est un succès, note M. Smith. En effet, ce système a fait chuter de 30 % le nombre de décès et de blessés chez les jeunes Ontariens de 16 à 18 mois, à 19 ans. $5,2 million sans appel d'offres pour l'ex-firme de la VG. À l'époque où la vérificatrice générale VG, Guylaine Leclerc, était au privé, sa boîte de jury comptable a offert un voyage à une hôte gradée chez un très bon client, l'Autorité des marchés financiers, dont elle s'apprête aujourd'hui à scruter les pratiques. L'Autorité des marchés financiers explique que les contrats d'origine octroyés sans appel d'offres à Leclerc jury comptable sont tout à fait réguliers. Ce sont des contrats à la base de moins de 100 000 $. C'était du gré à gré, dit le porte-parole Sylvain Théberge. Dans les deux cas, la facture a cependant rapidement dépassé ce seuil. La valeur du contrat Mont Real est passée de 60 000 à 250 000 $ en 2 mois seulement en 2005. L'autorité signale aussi qu'elle les a octroyés en vertu de la politique d'achat de biens et de services en vigueur à l'époque, qui permettait de ne pas faire d'appel d'offres pour des services professionnels juridiques. francisation des immigrants, deux points, échec. C'est une chronique opinion de Denise Bombardier. Je vous lis l'amorce, mais n'avons-nous donc que des incompétents au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion? En découvrant dans la presse d'hier que le test du ministère pour évaluer les connaissances en français des nouveaux arrivants est non seulement un échec, mais une fraude, l'on comprend que tant d'entre eux se découragent et quittent les cours d'apprentissage du français. Un petit peu plus loin, les professeurs de français interdits par le ministère de parler aux journalistes ont devant eux des gens incapables de comprendre des phrases telles que « comment ça va » ou d'écrire « je voudrais un rendez-vous », alors qu'on les a classés dans un groupe avancé au-dessus de leurs capacités. Cela résulte du fait qu'on les soumet à une évaluation en ligne, une mesure découlant des coupures de personnel. Or, remplir un questionnaire en ligne peut être fait par n'importe qui, et à l'évidence, cela se vérifie. Patrimoine, vandalisme, la statue d'un ex-premier ministre vandalisé, John A. Macdonald, est considérée comme une figure controversée au Canada. Le méfait aurait été commis au petit matin selon une vidéo mise en ligne par un groupe anonyme qui a revendiqué les dommages à l'imposante statue de John A. Macdonald située sur la place du Canada au centre-ville de Montréal. Dans un communiqué accompagnant leur vidéo, ces auteurs s'identifient comme une poignée d'antiracistes anticoloniaux. John A. Macdonald serait, selon eux, raciste. L'incident a été rapporté au service de police de la ville de Montréal en fin de matinée. Un monument à la mémoire des soldats tombés au combat a été recouvert de graffitis haineux dans la nuit précédant le jour du souvenir qui avait lieu samedi. Il s'agit d'un cénotaphe situé dans le parc Baudet dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Des malfaiteurs y ont écrit avec de la peinture FUCK, la guerre, et FUCK, l'armée. Un commerçant qui ouvrait sa boutique de l'autre côté de la rue a aperçu les dégâts et a été le premier à contacter les autorités. Bien triste histoire, elle meurt lorsque son auto sombre dans l'auto. Un policier et un pompier volontaire ont plongé dans les eaux glaciales sur la rivière Richelieu hier, mais ne sont pas parvenus à secourir une automobiliste prisonnière de son véhicule après une violente sortie de route. La tragédie est survenue vers 1h45 à Saint-Charles-sur-Richelieu en Montérégie. La victime originaire de Sorel, Julie Fagnan, 38 ans, circulait sur le chemin des Patriotes en direction de Sorel. Pour une raison inconnue, elle a perdu la maîtrise de son véhicule dans lequel elle se trouvait seule. Sa voiture blanche a sectionné violemment un poteau d'Hydro-Québec à droite de la route. Elle a ensuite pris une trajectoire surprenante en bifurquant vers la rivière Richelieu à gauche. Tout a été fait pour la sauver. Elle a été retrouvée à l'arrière du véhicule. On se demande si elle a tenté d'enlever sa ceinture pour sortir ou si elle ne la portait pas, indiqué Daniel Thibodeau, porte-parole de la SQ. Une enquête est menée pour éclaircir les circonstances de l'accident. Théo Taxi répond à la demande grandissante. Confronté à une hausse de l'achalandage et à un temps d'attente trop long pour les clients, l'entreprise Théo Taxi a recruté plus de 100 nouveaux chauffeurs qui sillonnent les rues de Montréal depuis jeudi dernier. L'entreprise de taxi électrique, fondée il y a 2 ans par l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, compte désormais quelque 350 chauffeurs et plus de 100 véhicules électriques. Les nouveaux chauffeurs de l'entreprise devront suivre une formation de 35 heures, tandis que celle offerte dans les 2 écoles reconnues de la métropole est de 150 heures. L'entreprise, qui reçoit une part importante des subventions gouvernementales dédiées au développement de l'industrie du taxi électrique au Québec, est devenue en novembre 2015 le premier service de taxi entièrement électrique de Montréal.
De notre pollution, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la télévision, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la montée des prix, c'est pas la joie, c'est pas la joie. c'est pas la joie. Au niveau des embarras de Paris, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Il y a encore qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours. Au niveau de l'environnement, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la gueule des passants, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la contestation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau des manifestations, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Il y a encore qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours. Au niveau de nos petites feuilles d'impôt, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau du cinéma porno, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la dévaluation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la surpopulation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Il y a encore qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours. Quand j'ai ton cœur contre mon cœur, ça marche à 100 à l'heure. Car entre toi et moi, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie.
Il s'appelle Benabar, il nous chantait « C'est pas la joie », pièce de Henri Salvador.
Dans le Journal de Montréal, Technologie recherche des légumes pour remplacer le pétrole dans les matériaux. Un chercheur croit que les restants de table serviront à construire des maisons et des voitures. Des chercheurs travaillent à intégrer des patates et des carottes dans la fabrication de voitures et de maisons afin de remplacer des matériaux conçus à base de pétrole. Le professeur Mathieu Robert de l'Université de Sherbrooke est convaincu que les restants de table se retrouveront partout d'ici 20 ans. Selon lui, les pelures de pommes de terre et de carottes sont assez isolantes pour qu'elles puissent être utilisées pour fabriquer des pellicules et panneaux isolants, pour les murs et les plafonds, ainsi que pour rendre la peinture plus durable. On a réussi à isoler et à extraire les fibres de résidus de table et à les intégrer dans la composition de matériaux. Le but est de donner une valeur à de la scrap. Il s'agit juste d'être créatif, explique M. Robert, qui est chercheur en génie civil. Concernant le prix, Mathieu Robert croit que les légumes seront d'abord utilisés dans des produits de niche et des constructions éco-responsables avant de devenir plus accessibles. Ce n'est pas demain matin qu'on en retrouvera chez Canac, illustre-t-il. Pour que les pelures de pommes de terre servent à construire des bâtiments et des voitures, il faudra en trouver en quantité suffisante. En ce moment, les usines de fabrication de croustilles envoient des quantités phénoménales de rognures au compostage. Plusieurs producteurs de patates sont également aux prises avec des surplus ou avec une partie de leur récolte qu'ils ne peuvent commercialiser parce qu'elle n'est pas d'assez bonne qualité. On ne travaille pas à partir de noix de coco ou d'autres nourritures qu'on ne retrouve pas ici. La pomme de terre, c'est cool parce qu'on peut assurer un approvisionnement fiable. Pas obligé d'aller trier les bacs de compostage, dit-il, ajoutant qu'on limitait ainsi le transport de matière et l'émission de CO2 et la consommation de pétrole. Le professeur Robert précise qu'on ne peut toutefois utiliser les légumes pour remplacer les structures de bois ou d'acier à cause de leurs propriétés poreuses. Selon Mathieu Robert, l'Europe possède une longueur d'avance en matière de valorisation des légumes. Certains fabricants du monde de l'automobile ont commencé à utiliser de la noix de coco, du bambou ou du lin dans la fabrication de pare-chocs, de tableaux de bord et de panneaux pour des voitures et des camions. La fibre de légumes est également sur le point de venir à la rescousse de l'agriculture biologique. On est à tester une membrane qui permettra d'empêcher les mauvaises herbes de pousser pendant l'été et qui viendra engraisser la terre en se décomposant pendant l'hiver. Les membranes utilisées actuellement libèrent des produits pétroliers dans le sol en se décomposant. Elles doivent être retirées avant l'hiver et jetées. Ce genre de pellicule, en plus d'être biodégradable, viendra enrichir le sol, conclut-il. Suite de ce dossier, éviter de faire pourrir les maisons, le principal défi des chercheurs consistera à s'assurer de la durabilité des matériaux de source biologique. Le danger est qu'ils se mettent à pourrir prématurément, causant de la moisissure et rendant les bâtiments instables. L'équipe de Mathieu Robert travaille actuellement à établir des balises qui serviront aux manufacturiers. Nous sommes en train de définir les paramètres. On doit notamment s'assurer de la teneur en sucre maximale. Celui-ci est problématique car il crée des réactions et fait pourrir. Il faut aussi déterminer comment on peut mélanger les fibres pour les protéger et assurer leur durabilité, explique-t-il. Le professeur Robert donne l'exemple du chanvre qui est utilisé en Europe dans la production de béton. Par le passé, il est arrivé que le produit pourrisse et fasse moisir des fondations de bâtiments, causant d'importants problèmes. Ce qui est problématique, c'est que la matière n'est pas la même d'une récolte à l'autre. On peut s'approvisionner deux fois du même producteur et obtenir des fibres de qualité différente, continue-t-il. L'objectif est d'en arriver à concevoir des matériaux qui seront aussi durables que ceux utilisés actuellement, mais biodégradables à la fin de leur vie utile. Les chercheurs explorent les combinaisons de fibres et d'enzymes afin de protéger le produit fini contre le pourrissement. Dans le Journal de Montréal, c'est milliards qui dorment dans les coffres des entreprises. Au Québec, 4 milliards en récompenses n'ont pas été réclamés par les usagers. Essence, épicerie, café, billets d'avion et médicaments, les Québécois qui raffolent des programmes de fidélisation des détaillants laissent dormir plus de 4 milliards de dollars de récompenses non réclamées, soit 629 dollars en moyenne par membre. C'est beaucoup d'argent et cela démontre qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire auprès des consommateurs pour bien utiliser ces programmes de fidélité, avance le professeur en marketing à l'Université Laval, Franck Pont. Selon l'agence Brand Royalty, les Québécois détiennent en moyenne 12 cartes fidélité dans leur portefeuille alors que seulement 7 seraient utilisées de façon régulière. Plus de 16 milliards de dollars n'auraient toujours pas été réclamés par les membres des programmes de fidélisation au Canada, dont plus de 4 milliards au Québec. Chaque année, Brand Royalty, BBR, sonde l'intérêt des consommateurs pour plus de 280 programmes de fidélité au pays. Selon le plus récent sondage réalisé au début de 2017, plus de la moitié des détenteurs de cartes de fidélité disaient ignorer combien de points ils avaient accumulés et combien cela valait réellement. Mais il y a plus. Le quart des détenteurs d'une carte fidélité n'ont jamais réclamé leurs points pour des récompenses. Mais à quoi cela sert-il? Pour le professeur Pont, il est évident que plus un consommateur détient de cartes de fidélité dans ses poches, moins il a conscience des bénéfices. Pour qu'un programme fonctionne, il faut que cela soit facile et clair. Il faut que les consommateurs soient capables d'accéder rapidement à leur solde de points par le web et d'obtenir rapidement des récompenses, signale-t-il. Ce dernier souligne qu'un programme de fidélisation n'est d'ailleurs pas un cadeau offert par les détaillants. Cela consiste pour les détaillants à obtenir des informations clés sur leurs clients et leur vie privée. Et en retour, les détaillants offrent des avantages, des points entre parenthèses, liés à des achats pour obtenir des récompenses, rappelle-t-il. L'an dernier, la décision du programme de fidélisation Air Miles de faire disparaître tous les points accumulés non réclamés le 1er janvier 2017 avait soulevé la colère de ses membres, dont 2,6 millions au Québec. Air Miles avait été obligé de reculer alors que l'utilisation de ses cartes de points semblait boudée par les membres du programme présents chez plus de 200 marchands, dont Jean Coutu, IGA, Shell, Rona, BMO et autres. le faux pas d'Hermès avait aussi soulevé un fort lot de critiques à propos des avantages offerts par les différents programmes de récompenses très peu généreux envers les consommateurs. Autre texte de Pierre Couture, accumuler de l'argent magasinant. Certains programmes de fidélité fonctionnent mieux que d'autres. La plateforme québécoise en ligne AmiCash connaît beaucoup de succès actuellement en remettant de l'argent, entre parenthèses cash back, directement à ses membres. Plus les gens achètent à partir d'AmiCash, plus ils accumulent des remises en argent, explique la cofondatrice et vice-présidente d'AmiCash, Geneviève Fauché. Fondée en Beauce en 2014, la plateforme AmiCash compte maintenant tout près de 100 000 membres et plus de 375 détaillants. AmiCash, qui s'écrit A-M-I-K-A-S-H, verse 6 $ en argent à chaque nouveau membre sur sa plateforme. Par la suite, ce sont les détaillants qui redonnent de l'argent aux membres selon le montant de leurs achats en ligne. AmiCash se veut donc un intermédiaire entre les consommateurs et les détaillants qui offrent d'accumuler de l'argent sonnant en passant par sa plateforme. Les taux de remise varient selon les détaillants et les promotions en cours. Certains peuvent offrir 1 %, 5 %, 10 % et ça peut même aller jusqu'à 30 % selon la période de l'année, souligne Mme Fauché. Une fois qu'un montant de 50 $ est accumulé, un membre d'AmiCash peut demander de se faire rembourser en argent ou décider de l'utiliser sur la plateforme pour des achats. Jusqu'à présent, AmiCash a réussi à attirer de gros noms du commerce au détail sur sa plateforme, dont Gap, Home Depot, Rona, eBay, Sephora, Lego, Forever 21, Sport Expert, Labé, Expedia, Under Armour, Guess et Indigo. Chaque membre d'AmiCash dépense en moyenne 92 $ par achat, alors que ce montant grimpe à 169 $ durant la période des fêtes. Des programmes très populaires au Québec, Inspire, programme de fidélisation de la Société des alcools du Québec, SAQ, ou de la SAC, en date du 25 mars 2017, le programme Inspire comptait 1,9 million de membres et plus de 18 millions en revenus reportés, récompenses non réclamées. L'an dernier, chaque membre a accumulé en moyenne 18 $ en remise. Seulement 38 % des membres ont converti leurs points accumulés l'année dernière. Métro et moi, programme de fidélisation des supermarchés Métro, plus de 1,7 million de membres. Depuis 2010, ce programme a versé plus de 235 millions de $. Chaque dollar rapporte un point. Il faut 500 points pour obtenir 4 $ et 1 250 points pour 10 $. Métro verse aux 3 mois aux membres les points accumulés en chèque récompense. Et finalement, PC Optimum, programme de fidélisation des magasins Loblaw, Maxi, Provigo et Pharmaprix, qui sera uniformisé le 1er février 2018. Chaque tranche de 10 000 points donnera 10 $ de rabais à la caisse. Loblaw ne donne pas le nombre de membres au Québec de ce programme. Loblaw ne fournit pas la valeur des points non réclamés. L'émission Les Voix de service quotidien se poursuit après la pause et la chanson avec les actualités internationales, les actualités culturelles et la tournée des journaux régionaux. Restez avec nous et merci d'être à l'écoute.